75e conférence.
Le programme comporte normalement une progression comme au cirque, vous savez, de plus fort en plus fort. C'est-à-dire que ce matin c'était facile à comprendre, c'était d'ailleurs étrangement court, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. Si peu de temps, je ne m'en suis pas rendu compte, je voyais avoir parlé une heure, comme quoi, bon, alors, donc c'était facile à comprendre, ça devrait l'être de moins en moins, et cette loi se vérifie, quel que soit le nombre des instructions, c'est-à-dire que s'il y en a 14, eh bien, les 13 premières sont de plus en plus acrobatiques. Jusqu'à un moment où on ne sait plus très bien où on en est, et puis alors la 14e ou la dernière, on rompt le rythme et on raconte autre chose. Alors, je sais déjà de quoi je vous parlerai à 2h de l'après-midi demain, pour rompre le rythme. Et d'ici là, on va probablement grimper, à partir de ce que je vous ai offert, promis ce matin, vers des choses de moins en moins faciles à comprendre, encore que j'ai pas beaucoup de temps pour prendre mon élan, alors il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que ça soit facile jusqu'au bout, mais ça fait pas beaucoup d'espoir qu'on aille au fond des choses. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, je peux pas tout faire. Alors, je vais d'abord vous raconter un peu comment me sont venues, certaines idées au sujet de la messe, simplement comment ça m'est venu historiquement. Première chose. Alors ça, celle-là n'a pas joué un rôle du tout dans l'élaboration des idées que je vous propose, mais elle peut servir d'introduction, par contre. Une terrible introduction, je vous préviens tout de suite. Une sinistre introduction. Un supérieur majeur, que je connais bien, d'une congrégation religieuse, que je connais bien aussi, a été interrogé il y a quelque temps, bientôt un an, par ces religieux qui lui ont dit, alors quoi, la situation de l'Église, comment est-ce que vous la voyez dans les prochaines années à venir, enfin, 10, 15, 20 ans, 30 ans, avec tout ce qui se passe, y compris la disparition numérique du clergé. Ah, il a répondu, c'est très simple. Et très tranquillement, sans exaltation, sans regret non plus, sans l'ombre d'un regret apparent. Pourtant, c'est un homme que j'ai connu autrement. Enfin, il a dit, c'est très simple, non seulement tous les prêtres seront mariés, bien entendu, mais on supprimera l'obligation d'assister à la messe le dimanche. Et par conséquent, on ira à la messe, on célébrera la messe de temps en temps. Ce sera vraiment des grandes fêtes. Alors, il est évident que ça répondra parfaitement, alors ça c'est moi qui parle, aux problèmes sociologiques qui se posent aujourd'hui autour du sacerdoce, et des sacrements, c'est évidemment une solution radicale et par la base. Ça n'empêchera pas, dans ces conditions, les prêtres d'être directeurs d'entreprise, ouvriers, coiffeurs, jockeys, enfin tout ce que vous voudrez. Ça, c'est jockey à condition qu'ils fassent le poids, comme me disent mes frères. Et ça, c'est vrai. Alors, si on se contente de jeter un regard sociologique sur l'Église, on peut dire, au fond, ceux qui rêvent d'autre chose sont complètement irréalistes, réactionnaires, crispés sur une réalité en voie de disparition. La messe aura un caractère festif, comme on dit, d'autant plus accentué que ce sera plus rare. Ah, ça, évidemment. Et puis, voilà, c'est tout, c'est simple. C'est comme ça. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire et que si j'étais vraiment convaincu que l'évolution en question est irréversible, vous ne me reverriez pas demain. Parce que c'est que je n'aurais déjà plus la foi, ce que j'appelle moi la foi, évidemment. Je crois que la messe, c'est quand même autre chose qu'une fête, tout en étant une fête. C'est même autre chose. Alors là, une chose me frappe de ce côté-là aussi. On dirait vraiment que ça date du XXe siècle et de la mentalité du XXe siècle que la foi soit une chose difficile. Quand même curieux. Je suis payé pour savoir que la foi n'est pas facile, puisque je l'ai perdue. Je ne vais pas recommencer une antienne connue de tous ceux qui m'entendent, même de vous qui avez dû m'entendre parler là-dessus une fois ou l'autre. Enfin, je sais ce que c'est que de perdre la foi, et je sais ce que c'est que la difficulté d'avoir la foi. Ça m'a jamais paru facile. Enfin, vraiment, alors, chacun a sa manière de trouver ça difficile. Je ne connais pas de gens qui vivent réellement de foi. Ah, bien entendu, ceux qui sont en train d'arranger les choses pour que ce soit facile, ceux-là peuvent prétendre avoir la foi et que ça soit facile. Mais je parle de ceux qui vivent réellement de foi et qui pensent que c'est facile. Sauf les Thérèse de l'Enfant Jésus qui disent, quelque temps avant de ramasser une épreuve comme celle qu'elle a connue, c'est pas possible que les incrédules soient sincères. Ils doivent faire mine. Parce que ça me paraît tellement évident que Dieu existe, tellement évident que le Christ a parlé, ça me paraît tellement... Enfin, j'avais une foi tellement lumineuse que je ne comprenais plus qu'on puisse ne pas avoir la foi. Alors, il y a des moments comme ça dans la vie que j'admets très bien. J'en ai connu, même. Alors, je peux dire qu'il y a eu des moments où vraiment je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas avoir la foi. Aujourd'hui, je comprends très bien. Alors là, je m'en cache pas. Mais il y a eu des moments où je ne comprenais plus. C'est-à-dire que tout de même, malgré tout, même à ces moments-là, ayant tout de même une connaissance de mon propre passé, une connaissance de certains amis et de la psychologie, des complexités de la psychologie humaine plus que Thérèse, je ne me disais pas, ils font mine. Parce qu'elle arrivait jusque-là, ils disent, pas possible, ils disent ça, mais ils font mine. Alors, faut vraiment... En effet, dans une telle lumière qu'on n'a même pas conscience, qu'on n'arrive pas à comprendre que cette lumière ne soit pas évidente aux autres. Ah, il y aurait bien à dire là-dessus. Tenez, j'aurais envie de m'engager sur cette affaire-là. Parce que là, il faut que je reconnaisse tout de suite quelque chose. Je vous ai dit, j'ai perdu la foi. C'est vrai, et complètement. Un point très très grave, puisque pour faire plaisir à des gens, à des parents, à cette époque-là, j'ai communié au moins une fois, je dis pas, absolument sans y croire, en disant justement, puisque j'y crois pas, qu'est-ce que ça peut bien me faire ? C'est vous dire. Faut vraiment ne pas y croire, pour aller jusque-là. Mais il y a quand même quelque chose que depuis mon enfance, alors là oui, j'avoue, je ne comprends pas, ça fait partie de mes méditations quotidiennes presque, de mes tourments quotidiens, comment font certaines gens pour ne pas se poser certains problèmes. Là, je peux dire que après 55 ans de réflexion, mettons en 50, hein, mais presque 50, hein. Bien, je ne comprends toujours pas. Ça fait partie des choses que je comprends pas. Et ça existe. Des gens qui ne se posent pas certains problèmes et qui, par conséquent, n'ont pas certaines évidences. Je vais prendre un exemple très simple, parce que ça, je crois que cette évidence-là ne m'a jamais quitté. Que l'infini est une chose énorme. Simplement ça. Que l'infini, c'est quand même une chose énorme. Que l'infini, c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est peut-être une infinité de néants qui nous attend. Je parle, je parle en insensé, comme dit saint Paul, n'est-ce pas? Bon, eh bien, c'est peut-être le néant. Le néant a cette caractéristique d'être dans son genre aussi infini que Dieu. Hein, si c'est du néant qui nous attend après la mort, c'est pas, comme disait le vieux Karamazov à propos de l'éternité, parce que son fils disait il n'y a pas d'éternité, et le vieux Karamazov, qui était un petit peu comme nous tous, il dit il y en a bien un petit peu quand même, hein, c'est un petit peu d'éternité quand même. Et bien, il y en a qui pensent aussi qu'il y a un petit peu de néant. Il ne peut pas y avoir un petit peu de néant, vous comprenez? Le néant est aussi absolu que Dieu. C'est le néant ou c'est pas le néant. Voilà. Après la mort, c'est l'un ou c'est l'autre. Bien. Donc le néant a quelque chose d'infini dans son genre, d'absolu. Et je dirais même d'éternel. Si c'est le néant qui nous attend après la mort, c'est évidemment le néant pour toujours, si ce mot a un sens. Ben, c'est quand même important. Et si c'est pas le néant, parce qu'enfin, comme disait quelqu'un à un incroyant qui lui objectait, oh, tout ça, ça se terminera par le néant, et vous vivez pour Dieu, mais vous vous faites des illusions, puis vous serez bien déçus après, eh bien, il lui a répondu, oh, ben, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Si c'est le néant, j'en saurai rien. Je ne serai donc pas déçu. Tandis que vous, si c'est ce que j'attends, vous le saurez. Et vous verrez. Eh bien, je vous dis donc, si c'est pas le néant, ben c'est quand même très important, enfin. Alors, voilà un truc. Je me bute sur ce truc-là, parce que, vous savez, c'est pas la peine de faire des analyses psychosociologiques interminables de la mentalité des prêtres actuels, et des chrétiens, bien entendu. C'est tout de suite fait. Bon. Je sens une espèce d'allergie extraordinaire à l'idée que ce qui suit la mort est plus important que ce qui se passe avant. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on saute sur une mine, qu'on n'a plus le droit de dire ça. Ah non, non, attention, pourquoi? Parce que, j'ai mon dictionnaire de psychologie, là, vous allez décoller du réel, le réel c'est maintenant, c'est on est là-dedans, hein. Alors, si vous vous mettez à rêver d'un autre monde, vous allez tomber dans l'imagination, la rêverie. Vous allez décoller du réel. Moi, je vis dans le réel, c'est le présent. Et alors, à force de se dire ces choses-là, qui sont peut-être vraies, vous comprenez, je veux dire par là que quelqu'un qui rêve d'une manière trop imaginative de l'au-delà, certainement qu'il a besoin d'être soigné au point de vue psychologique. Il n'est pas bon de rester trop infantile, de se demander, comme on posait la question à saint Thomas, est-ce que tous les élus auront leur nom inscrit sur une banderole? Évidemment, c'est très intéressant, mais je voudrais que ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas voient les choses de manière un peu plus profonde. Je suis tout à fait d'accord, c'est l'affront d'être infantile. Mais enfin, ceci dit, une fois qu'on a bien déblayé le terrain, ces gens qui voient mourir tous les jours ou toutes les semaines, il y a 170 morts sur la route. Ils ne peuvent pas arriver à se mettre dans la tête que la question, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, est tout de même une question importante. Ils ne veulent pas que ce soit une question importante. Alors, ces gens-là, il se trouve que je les ai connus depuis ma plus tendre enfance, où je me posais ces questions en n'étant pas du tout sûr que les prêtres et les catholiques aient raison quant à la réponse. Oh, loin de là, puis je l'ai regardé comme ça. Hein. Enfin, la question était importante, ça me paraissait évident. Or, j'ai toujours vu des gens pour qui cette question n'avait pas d'intérêt. Alors, il se trouve que généralement, enfin même toujours, c'était des incroyants. Ou c'était des chrétiens plus que tièdes. C'était pas des prêtres, enfin. Alors là, en fait de maboulisme psychologique, on arrivait à vouloir être prêtre, représentant de Jésus-Christ, l'Évangile, l'Église, enfin, toutes ces notions-là. Alors on sent les mastiques, Templum Domini Est, n'est-ce pas? Enfin, c'est le temple du Seigneur, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Alors, il y a le peuple de Dieu aussi. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui, mais alors, après d'abord. Voilà, en face, vraiment une pile électrique. On leur touche, après d'abord. Ne déconnons pas du réel. Non, mais c'est quand même un monde, ça. Alors, j'ai beau avoir perdu la foi, jamais je suis obligé de le dire. J'espère humblement, je ne suis tombé dans une pareille aberration que de me dire que ce qui se passe en ce moment sur la terre est plus important que ce qui se passera après la mort. Là, excusez-moi, mais j'y arrive pas. Parce que la mort a pour moi un visage concret que j'ai connu bien avant de voir des morts. C'était dans les livres, c'était mes parents. Enfin, je comprenais tout de suite ce que ça voulait dire. Enfin, n'est-ce pas ? Napoléon a vécu de 1700, je ne sais pas combien, à 1800, je ne sais pas combien non plus. Mais, bon, ben, il est mort. Et après? Alors, vous voyez, avant même que une illusion tenace, une illusion incroyable des prêtres, enfin, de beaucoup de prêtres, de mes frères, encore plus, alors, je suis là. Bon. C'est de s'imaginer que ce qui est important, c'est la réponse. Je m'explique, n'est-ce pas ? Je m'explique. Sous prétexte que j'ai comme réponse que je crois à un au-delà, par exemple, hein, j'ai ça dans ma poche, j'ai ma carte de chrétien, je suis dans le parti, Oui, il y a un au-delà. Bon, il est secondaire, ça n'est pas grave, de dire ensuite, une fois que je dis je crois à l'au-delà, de dire ensuite, ceci dit, c'est pas tellement important. Pas ? Et tout en je crois à l'au-delà, mais je vais me passionner pour les choses de la terre, comme les marxistes par exemple, qui n'y croient pas, parce que ce qui est important, c'est les choses de la terre. D'une part. Et je suis tranquille, je suis chrétien, puisque j'ai ma réponse. Je crois à l'au-delà. Je m'excuse, mais je ne fais pas comme ça ma géographie des esprits. Je divise les esprits en deux, ceux pour qui ce qui se passe dans l'au-delà est plus important que tout, même s'ils sont convaincus que c'est le néant. Alors là, je suis de la famille. Je m'excuse. Voilà, je revendique de faire partie du club de ceux pour qui ce qui se passe après la mort est plus important que ce qui se passe avant. Voilà. Même si on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Et j'estime que c'est beaucoup plus important d'en être que de savoir quelles réponses on fait. Et qu'il est encore plus insensé et plus fou de ne pas vouloir faire partie de ce club quand on prétend qu'on croit à l'au-delà que quand on n'y croit pas. Parce qu'au moins, si on n'y croit pas, à l'au-delà, si on croit au néant, on a des excuses de se dire, ben, occupons-nous comme on peut. Hein? Bon, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Bon, travaillons à modifier cette terre, et à cette vallée de larmes, arrangeons-nous pour vivre le plus agréablement possible, le plus justice possible, le plus satisfaction possible, puisque nous savons que ça ne va pas durer. Et que nous sommes convaincus que, comme Mono, peut-être, par exemple, ben, je l'excuse profondément, s'il est vraiment convaincu, ce qui, j'en sais rien, finalement. Bon, que, après ça, c'est... Que l'homme est une espèce de pirouette qui danse comme un fou pendant 5 minutes avant de rentrer dans le néant et dans la poussière infinie, si on est convaincu de ça, je comprends qu'on s'accroche à ce qui nous reste. Mais prétendre être convaincu qu'il y a un au-delà et ensuite déclarer que c'est moins important que la vie sur la terre, alors non, mais quand même. Ces réflexions que je vous offre sont venues en ce moment de ceci que je ne comprends pas, que je n'ai jamais compris. C'est vrai, j'ai perdu la foi, c'est vrai, mais je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, même au moment où je perdais la foi. Comment font, hein, ainsi font les marionnettes, c'est vraiment des marionnettes, comment font les gens qu'il croit ou il ne croit pas à l'au-delà, pour attacher plus d'importance à la vie de la terre qu'à l'au-delà. Je le comprends pas. Alors là, ça veut. Si vous m'expliquez un jour, ça m'intéresse. Alors les psychologues, les psychanalystes, ils peuvent s'amener, me donner des schémas. Si j'ai une explication, j'en ai une seule. À vrai dire, j'en ai deux. Mais j'en ai deux, une que je comprends par connaturalité. Je veux dire par là que quand on a très peur de quelque chose ou quand on a très envie de quelque chose, ben on a beau savoir qu'il y a un au-delà, ça prend une importance très grande. Alors ça, je reconnais, pour je suis le premier, à ce moment-là, il n'y a pas d'au-delà qui tienne, n'est-ce pas? Comme disait M. Jourdain, je me veux mettre, il n'y a point de morale qui tienne, et je me veux mettre en colère tout mon sou. Hein? Eh bien, il n'y a pas d'au-delà qui tienne, je suis passionnément pris par ce qui me fait un très grand plaisir ou ce qui me fait très peur. Là, oui, mais quand je suis dans cet état, ben, je me reconnais aliéné. Ben, c'est tout, oui, je vous dis. Alors ça, je prêche, je signe, je donne ma carte, je suis aliéné. Pas tout le temps, mais de temps en temps, et plusieurs fois par jour, quand je me mets à m'échauffer autour de quelque chose, je me dis, mais non, mais ça va pas. Hein? Non, mais ça va pas, mon pauvre vieux. Hein? Qu'est-ce que tu t'énerves au sujet de ça, enfin, hein? Et je me dis, à ma manière, la fameuse formule « quid ad aeternitatem ». Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, à côté de l'éternité? Enfin, quand même. Alors, je reconnais aussi que cette pensée de l'éternité, disons, a une certaine tendance à s'aggraver avec l'âge. Ma foi, je reconnais qu'à 20 ans, la vie me paraissait devoir durer toujours. C'est ahurissant. Oui, alors là, j'ai partagé cette illusion. J'ai connu ça. Parce que, je me souviens d'ailleurs, quand j'avais 10 ans, ou moins de 10 ans, 9, 8 ans, et que maman parlait de quelqu'un qui était mort à 50 ans, en disant, oh, il était très jeune. Je disais, comment il était très jeune? 50? Oh là là! Hein, ça me paraissait Mathusalem, moi, ça. Alors, et j'avais l'impression d'avoir un certain infini d'existence devant moi. À 25 ans, je l'avais encore un peu moins, mais encore un peu. Bon. Bon, à 55 ans, ça devient plus difficile. Bon. Alors, là, que à la faveur d'un grand amour de la vie, d'une grande exubérance, d'une grande intensité de plaisir ou d'une grande peur, dans certains cas, on oublie que la vie est courte, quoi, hein, et qu'on se laisse prendre par l'instant présent et par les 10 ou 20 ans ou 50 ans qu'on croit avoir devant soi, soit de bonheur, soit de malheur, je comprends. Ça, je comprends. Mais c'est pas une doctrine, vous comprenez? C'est une faiblesse. J'ai dit aliénation, je suis allé un peu fort. Mettons une faiblesse, c'est une faiblesse de la nature humaine. C'est pas une doctrine. C'est pas un système, c'est pas une allergie, c'est pas un refus d'entendre parler d'autre chose comme étant du cinéma. Bon, alors justement, l'allergie, cette espèce de... Oh, c'est indéfinissable, je voudrais vous présenter des diapositives animées de préférence, parlantes, sonores, et pour que vous voyiez l'effet que ça produit. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ce fait, cette disparition, je voudrais savoir, je voudrais enregistrer sociologiquement combien de fois un prêtre ose dire à un autre prêtre « et l'au-delà ». Je voudrais enregistrer. Puis alors l'effet produit. Ne nous égarons pas. C'est quelque chose du genre. Ne nous égarons pas. Alors, la deuxième explication, alors là que je ne connais pas par expérience, parce que justement je suis frappé d'insomnie, dans tous les sens du mot d'ailleurs, c'est justement le sommeil, et je dirais le sommeil volontaire, l'aveuglement volontaire, mais par mode de sommeil. Et ça explique alors l'allergie. Ne me dérangez pas dans mon sommeil, je suis en train de dormir. Les gars, je n'appelle pas ça dormir, bien entendu. Justement, pour être plus tranquille, je vais appeler ça vivre dans le réel. À savoir construire des maisons. Vous savez, la parole du Christ, il en était ainsi au jour de Noé, on construisait, on bâtissait, on faisait du commerce, on vendait ses filles, enfin on les mariait, enfin peu importe. Enfin, on faisait tout ce qu'il faut pour que la vie existe. Bon, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et la pluie tomba. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. On construira, on vendra, on achètera, on fera des courbes économies, des graphiques, prospection, etc. Jusqu'au jour où ce sera la fin. Alors justement, ça s'appelle du sommeil. Mais ce sommeil, on l'appelle activité réaliste, implantée dans la vie. Moi, je ne rêve pas. Moi, je suis un homme... Enfin, tout ça, c'est... Alors là, j'avoue mon incapacité, mon incompréhension, mon désarroi, ma déroute, je ne comprends pas. Je dis, je ne sais plus. Là, il y a un mystère. Et justement, comme je crois au démon, ben, je me tourne de ce côté-là, je me tourne de son côté, ça m'arrive... En disant, si vous pouviez me fournir une explication, c'est peut-être vous qui tenez la clé de l'affaire. Vous avez dû leur flanquer un soporifique quelconque. C'est pas possible. Si vous pouviez m'expliquer comment vous faites, ça me rendrait service, parce qu'enfin, je me dirais, bon, ben, c'est pas la peine d'insister. Et j'en arrive à ça. J'en arrive à dire, c'est pas la peine d'insister. Donc, en fait, quand j'entends un supérieur majeur, dire, de manière toute naturelle, on ne dira plus la même. Je veux dire, enfin, est-ce qu'il se pose la question de l'au-delà? Je ne dis pas s'il croit à l'enfer, il lui dit qu'il n'y croit plus, mais est-ce qu'il se pose la question? Eh bien, non, c'est fini. C'est fini, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, vous m'entendez? Je m'excuse, je ne comprends pas. Alors, nous sommes entre gens, je l'espère, pour qui ça compte, l'au-delà. Et c'est la base de tout, c'est pour ça que... Ayant fait à l'intérieur de ce club des gens pour qui compte l'au-delà, la réponse de la foi, qui, elle, peut être traversée de nombreux doutes, de nombreuses hésitations, de nombreux reniements, comme ceux de Pierre, mais des reniements qui ne pourront pas durer indéfiniment parce que, justement, on continue à se poser la question. Alors, je crois... à l'au-delà, sous toutes les formes où le Christ et l'Évangile sont venus nous le révéler, car ils ont l'Évangile à la bouche, or dans l'Évangile, il est question que de l'au-delà, ou à peu près. Donc, le ciel, l'enfer, le péché, le salut, la croix, la résurrection, la messe. Voilà. J'ai joué. Qu'on appelle ça un pari, ou qu'on appelle ça autrement, j'ai misé ma vie là-dessus. Alors, je ne vais pas, après avoir misé, et justement parce que, mais je vous répète, je fais partie du club des gens pour qui l'au-delà compte, et les questions comptent. Alors, vous comprenez, je ne peux pas donner une réponse et puis oublier l'importance de la réponse, parce que je n'ai même pas mesuré l'importance de la question. C'est ça, j'ai affaire à des gens... qui ne mesure pas l'importance de la question. Alors évidemment, cette réponse, ils ont la réponse, oui, mais ils se sentent, comme ils disent, très fraternellement proches de ceux qui ont une autre réponse. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de la question. Alors évidemment, c'est pas difficile. Ça, l'écuménisme marche tout rond, et tout le reste marche tout rond. On peut aimer les hommes... Non. Justement. On est dispensé d'aimer les hommes pour s'entendre avec eux. Quand on se désintéresse de la question. Parce que le problème est justement de savoir s'il s'agit de s'aimer les uns les autres ou de s'entendre, de coexister, de coexistence pacifique. Il est évident que entre deux personnes qui ne pensent pas pareil, il y aura coexistence pacifique aisée sans amour nécessaire, au fur et à mesure qu'ils se désintéresseront de part et d'autre de ce qu'ils pensent. Voyez, et en particulier s'il pense différemment sur l'au-delà, mais que in petto, il se moque éperdument de l'au-delà de part et d'autre, ils n'ont pas besoin de s'aimer pour s'entendre. Ils s'entendront sur la base de « on, je m'en fiche ». Travaillons à ce qui nous intéresse. Tandis que s'ils pensent différemment sur des questions qui comptent, qui sont vitales, qui sont névralgiques, s'ils ont ça de commun, que la question pour eux est névralgique. Et je vous assure, je me laisse aller à des digressions parce que j'ai peur de me lancer dans des choses dont j'aurai pas le temps de sortir en 3 heures, peut-être, et puis parce que ça compte pour moi, mais je vous assure, quand j'ai entendu la relation de l'entretien de Mono avec l'abbé Oraison à la télévision, que j'ai pas vu l'émission, mais j'en ai entendu le compte-rendu par un chrétien, c'était extraordinaire, parce que justement, Mono faisait partie du club des gens pour qui ces questions ont de l'importance. Et Oraison faisait manifestement partie du club des gens pour qui... pas important. Alors Mono lui disant, Mono déconcerté, vous savez, désarçonné, le pauvre gars... lui disant, tout de même, il y a tout de même une chose qui nous sépare, monsieur l'abbé, c'est que vous croyez en l'existence d'un créateur, et puis moi je n'y crois pas, et l'Oraison répondant, oh, vous savez, qu'est-ce que c'est que le créateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça n'est pas si simple. Alors la tête de Mano. La tête de Mono qui fait partie de la famille, vous comprenez, enfin de la mienne. Moi, je suis idiot comme Mono. C'est vrai, monsieur Mono. Il y a quelque chose qui nous sépare. Vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui nous sépare. Et alors, vous voyez le paradoxe usant au point de vue des paroles, n'est-ce pas? C'est qu'on est d'accord, je suis d'accord avec quelqu'un qui dit quelque chose nous sépare, et Mono et moi sommes en désaccord avec des gens qui disent « mais il n'y a pas de désaccord !» Alors là, ça devient... Mais c'est ça, la foire aux idées et aux paroles. Toute l'argumentation de ces chrétiens consistant à démontrer que Mono, le catholicisme, l'évangile, tout ça, il n'y a pas de désaccord, mais non, ce sont des points de vue... Alors j'ai envie de prendre Mono à part, de dire écoutez, laissons ces gens-là, et puis cognons-nous dessus s'il le faut, intellectuellement, je dirais en paix, entre gens qui se comprennent. Bien. Alors, quand donc des gens, je ne sais pas si Mono attache beaucoup d'importance à l'au-delà, je l'en soupçonne un peu. De même que Jean Rostand. Je soupçonne Jean Rostand de faire partie du club, parce que c'est un angoissé, et qu'il le dit. Ben, il y a de quoi être angoissé quand on pense qu'il y a le néant après la mort, enfin quand même. C'est ça la réaction saine. C'est ça qui prouve qu'on a de la santé psychique, comme ils disent. C'est croyante au néant d'être dans l'angoisse, c'est là. Il faut être complètement mais liquidé au point de vue humain pour croire en néant et ne pas être dans l'angoisse. Et il faut être encore plus liquidé, je dirais, au point de vue humain, pour dire aux gens, vous croyez pas, mais ça fait rien. Je vais vous guérir votre angoisse. On va parler de votre enfance, tenez. Hein? Enfin, c'est quelque chose, ça. Bon, donc la réaction saine de quelqu'un pour qui ça compte, la question, et qui répond, comme quelqu'un me l'a dit une fois, qui faisait partie du club aussi, c'était un professeur de mathématiques, j'avais 19 ans, je reconnais qu'il m'a fait considérablement mal, il m'a fait considérablement du mal, parce que je me posais la question, et j'étais très flottant, et il était devenu un peu ami de la famille, et je lui ai dit, ben alors qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il m'a dit, ben il n'y a rien. Mais je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire rien, quoi, c'est très simple, il n'y a rien. Ah bon, enfin, ça m'a impressionné, vous savez, il n'y a rien à faire, ça impressionne ces choses-là. Et ça m'a fait du mal. Bon, mais je l'estime parce qu'au moins c'est franc. Je comprends ça. Bien, alors je dis, quelqu'un pour qui cette question est grave et importante, si on est deux et qu'on a une réponse différente aux antipodes, si on est... croyant ou athée, ou même si on est chrétien ou hindou, ou même si on est catholique et protestant. Justement, dans la mesure même où on est un vrai catholique, ou un vrai incroyant, un vrai protestant, un vrai orthodoxe, même tout ce que vous voudrez, dans cette mesure-là même, eh bien, si on ne s'aime pas follement, on ne s'entendra pas. Parce qu'on ne s'en fiche pas, vous comprenez. Alors là, ça va être un problème difficile de s'aimer. Et il faut s'aimer. Oh, mais oui, il faut s'aimer. Mais pas sur la base de... Moquons-nous de ce qui le sépare. Oh, pas du tout. Souffrons-en, au contraire. Souffrons-en jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'insupportable. C'est la seule manière de s'aimer. Et puis, ben oui, mais on est en train de faire la traversée Le Havre, l'Amérique sur un radeau, faut quand même qu'on organise l'existence d'une manière à peu près pacifique. Eh ben d'accord, organisons l'existence d'une manière pacifique, mais pas sur la base de « on s'en fiche de ce qui se passera si le radeau coule ». On continuera à s'affronter. Et par conséquent, si sur ce radeau, il me reste un bout de pain, s'il me reste des réserves de vin, et si je suis prêtre, eh bien je dirai la messe tous les jours. Et si on doit me persécuter parce qu'on veut pas que j'embête le monde avec ça, eh bien, je serai persécuté, mais je ne capitulerai pas. Là, ce que c'est que la foi, qu'est-ce que je vous dis ? Et cette foi paraît vertigineuse. Vous voyez, quand que de fois on me l'a dit, on m'a dit, ben oui, ben, vous avez la foi, hein. Bon, j'ai pas tellement l'impression d'avoir la foi. Oh non, je suis un homme de peu de foi. Mais ce qui est intense en moi, je l'avoue, c'est la violence de la question. Alors quand la question arrive à un certain niveau de violence, la réponse a forcément le même niveau de violence, au moins. N'est-ce pas ? Même si cette réponse est faite en tremblant, eh bien peut-être que je la fais en tremblant, mais je la fais avec le niveau de violence de la question. Il y a la conscience qu'il faut opter. Pas n'importe comment. Là, c'est une option que je fais à partir de signes et en supposant et en admettant et en croyant justement que la grâce de Dieu soutient ma foi, de telle sorte qu'il a pu m'arriver des moments où je me dis... c'est classique ça, de prêcher comme je suis en train de vous le faire en ce moment, et avec beaucoup de puissance, et puis quand on a fini, 5 minutes après ou 1 heure avant, on se dit... Mais de quoi je me mêle, enfin ? Mais qu'est-ce qui me prend ? Je n'ai pas le droit de dire ces choses. Et puis je me reprends, je dis, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, pourquoi ? J'y crois pas. Ben, je n'ai pas le plaisir d'y croire. Mais j'y crois. Honnêtement, je peux pas... Non, j'ai pas le plaisir d'y croire, parce que j'ai eu le plaisir d'y croire. Je ne l'ai plus. J'ai connu la consolation d'y croire, le repos d'y croire, les délices de croire. Vraiment, c'est... Non, maintenant, c'est une impossibilité de ne pas croire. Ça fait un drôle d'effet. Parce que j'y comprends rien. Parce que c'est complètement obscur. Parce que c'est pas satisfaisant du tout. Je n'ai aucune satisfaction. Je ne retire de ma foi aucune satisfaction. Ah, de l'amour de Dieu, c'est autre chose. De l'amour de Dieu pour moi, ça c'est autre chose. Mais de ma foi, oh non, aucune satisfaction, vraiment. Mais c'est comme ça. Et tout ça à propos de la messe, je dis ça à propos de la messe parce que cette parole de mon supérieur, là, c'est quelque chose d'ahurissant. Enfin, la question a perdu toute violence en lui, alors peu m'importe sa réponse. Comprenez, ça m'intéresse pas le témoignage de quelqu'un qui ne se pose plus la question avec violence. J'ai rien à en faire. Le minimum que je demande, c'est au moins ça. Et on trouve encore chez certains protestants, chez des incroyants comme Monod, je me sens mieux chez moi parce que avec Monod, je m'excuse, j'ai envie de... Là, je traverserai plus l'Atlantique avec Monod qu'avec... Oh oui, vraiment, bon, ouais. Ben oui, c'est quand même plus facile de se respecter. Enfin, quand même. D'ailleurs, il a fait preuve dans une autre émission télévisée, Monod, d'un respect extrêmement remarquable. à l'égard des croyants. Je ne sais pas si c'est une évolution de sa part, mais enfin, il a dit, s'il existe... Ah oui, c'était encore très bien. Je m'excuse, je suis parti dans les... C'était vraiment très bien, cette émission. On réunissait des savants et on leur demandait leur avis sur un tas de questions avec des téléspectateurs qui téléphonaient, n'est-ce pas, qui appelaient. Et alors le journaliste, très embêté, au bout d'une demi-heure, très embêté, ils ont parlé de toutes sortes de choses, bien entendu, scientifiques, très sérieuses, enfin, puisque scientifiques. Et au bout d'une demi-heure, il est très embêté, il dit, écoutez, j'ai une dizaine de coups de téléphone, enfin un grand nombre de coups de téléphone qui vous demandent si vous ne croyez, est-ce que vous pensez qu'à partir des données de la science, on peut... supposer qu'il y aurait une ordination, enfin qui intelligente, enfin qui serait peut-être, qui devrait peut-être être référée à une source elle-même, enfin bref, n'ayons pas peur des mots, le mot Dieu a été prononcé, enfin très malheureux, le pauvre vieux, n'est-ce pas, parce que on avait prononcé le mot Dieu, n'est-ce pas, alors tremblant d'effroi. Et il a été d'ailleurs très bien reçu dans l'ensemble, et en particulier par Monod, qui a dit, moi, j'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est que s'il existe une intelligence à la source de ce que je vois, elle ne ressemble à rien de ce que l'homme peut se figurer. C'est pas mal. Bon, mais c'est une introduction pour vous dire, enfin, la messe, quoi. La messe. Est-ce que nous renonçons à la messe à la légère, comme ça? Je poserai la parole d'un de mes professeurs au temps où la foi semblait encore sévir dans les séminaires, et disant, quand un prêtre a dit la messe, il n'a plus qu'à aller se coucher. Ce qui, c'est pas vrai, mais voilà. Donc, en contrepartie, tant qu'il n'a pas dit la messe, quoi qu'il fasse, il n'a rien fait. Bien sûr, c'est pas obligatoire d'aller à la messe tous les jours. Je me rappelle aussi, là encore, un jeune garçon qui était, alors qui avait bien perdu la foi, d'une famille chrétienne, qui avait bien perdu la foi. J'avais dû passer la nuit chez lui, et le lendemain matin, je lui ai dit, c'est très gentil, mais faudrait que tu m'emmènes quelque part pour que je dise la messe, parce que faut que je dise la messe. Il m'a dit, mais vous êtes obligé de dire la messe? J'ai dit, non, mais si je disais pas la messe, j'en serais pas près de 5 minutes, c'est pas la peine. Alors, il a souri, et il m'a avoué après, évidemment, ça lui avait fait plaisir. Ça lui avait fait plaisir de voir que j'y croyais comme ça. Oui, enfin, c'est élémentaire. Bon. Eh bien, ce qui a amené les réflexions que je voulais vous proposer sur la messe, parce que j'ai pas commencé, là, c'est un petit hors-d'œuvre, mais enfin, il est grave. C'est alors une histoire... plutôt une question que m'a posée une religieuse enseignante dont les élèves vont quelquefois dans une chapelle, je crois que ça s'appelle la chapelle Saint-Bernard, près de la gare Montparnasse, et elle m'a dit, on essaie d'attirer les jeunes à la messe. Alors pour les attirer, on fait ce qu'on fait, on fait des danses, des folklores, toute la liturgie est en l'air, enfin, on fait du n'importe quoi, hein, liturgique, mais ça attire les jeunes. Alors, je me pose la question de conscience, puis-je y aller, ne puis-je pas y aller, pour me rendre compte, pour voir, parce qu'il y a les jeunes, parce qu'on ne peut pas se désintéresser d'eux. Alors, comment je lui ai répondu, importe peu. Ah, peut-être aussi, si, ça importe. Parce que c'est là que, pour la première fois, j'ai été amené à faire une distinction entre l'avant-messe et la messe. Cette distinction, je la connaissais. Mais je veux dire que je l'ai poussée à l'extrême. Et j'ai été acculé par sa question à la pousser à l'extrême. Et ensuite, doctrinalement, j'y suis revenu. Et je me suis dit, au fond, on n'insistera jamais trop sur la distinction entre l'avant-messe et la messe. Alors évidemment, dans des communautés comme la vôtre, où... au fond, tout est messe, vous voyez, y compris l'office divin, on n'insistera pas tellement sur cette distinction entre l'avant-messe et la messe. Mais il faudrait qu'au point de vue doctrinal, vous compreniez qu'il y a quand même un abîme. Même si vous célébrez l'avant-messe avec la même dignité que la messe, ce qui est très bien, et ce que vous devez faire, et puis tout l'office divin pendant que vous y êtes, comme étant une préparation à la messe, justement, au fond, remarque doctrinale, en un sens profond, on peut dire que tout l'office divin fait partie de l'avant-messe. Vous voyez, c'est pas vrai liturgiquement, hein, mais la liturgie est elle-même suspendue à la théologie. C'est vrai théologiquement. Parce que qu'est-ce que c'est que l'avant-messe ? Eh bien, c'est une préparation que l'Église nous offre pour que on assiste à la messe convenablement. Et la preuve que c'est bien ça, c'est que au temps où la messe était vraiment obligatoire le dimanche, elle l'est encore théoriquement, elle ne l'est plus pratiquement, mais au temps où les gens avaient peur de ne pas accomplir le précepte en allant à la messe du dimanche, on leur disait bien d'arriver avant la fin du credo, parce que s'ils arrivaient après le début de l'offertoire, ils n'avaient pas la messe. S'ils arrivaient pour le début de l'offertoire, même s'ils avaient raté, comme on dit, même s'ils avaient raté tout le reste, ils avaient la messe. Ce qui prouve bien que la messe, ça commence à l'offertoire. Cette discipline de l'Église, telle qu'elle était exercée, montre bien qu'il se passe quelque chose d'absolument neuf à l'offertoire. Et ce qui se passe avant, c'est une pédagogie de l'Église pour nous mettre en état d'assister dignement, correctement, avec l'attention voulue, dans les dispositions voulues, de nous préparer au spectacle extraordinaire de la messe, par un spectacle déjà extraordinaire, mais moins transcendant, que j'appelle le spectacle de l'avant-messe. Et on peut dire que tout l'office divin est un étalement de ce spectacle de l'avant-messe. Alors je vous demande pardon d'avoir terminé la conférence sans avoir commencé le sujet. Alors j'espère le commencer demain matin, où j'essaierai de vous expliquer vraiment alors ce que j'entends par avant-messe et l'extraordinaire dimension que ça a. J'en reviens justement à la question que m'a posée la sœur et à, on pourrait presque dire tout le théillardisme, toutes ces dimensions cosmiques de la messe d'après Théillard, moi je suis prêt à l'accorder à l'avant-messe. Et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Mais la messe proprement dite, c'est du transcosmique. C'est le saint des saints. C'est le noyau du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, descendant sur la terre sous les apparences d'un bout de pain. C'est quand même autre chose.